et boum,
les détricoteuses.
Elle m'évoque des sons soit imaginaires, soit qui existent pour de vrai.
Et c'est vrai, on est dans les détricoteuses.
Un espace ouvert et en évolution que je parcours.
Et nous allons écouter maintenant une création radiophonique.
C'est une parure que je porte, non pas pour me cacher, mais justement pour me révéler.
Et que c'est passible d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende.
Comme si elle parlait trop, alors que le temps moyen de discours d'une femme se situe entre 3 et 10 secondes.
Je me dis, mais c'est trop con de pas pouvoir le faire, juste parce que t'as des seins. Moi, je m'en fous de mes seins, quoi.
Non pas que votre avis soit pas intéressant, non, non. Il raconte plein de choses, votre avis.
Les Détricoteuses.
Une émission menstruelle
et participative.
Tous les premiers et troisièmes vendredis du mois.
À 19h sur JetFM 91.2.
C'est un attentat radiophonique.
Bonjour à toutes et à tous. En cette rentrée 2023, pour notre sixième saison des Détricoteuses, nous vous proposons une nouvelle formule en alternance avec notre émission habituelle. Tous les deuxièmes et quatrièmes vendredis du mois, à 19h, dans la fenêtre des Détricoteuses, nous vous proposons une sélection de créations qu'on aime et qu'on a envie de partager avec vous. Pour le mois de novembre, nous sommes ravis de vous faire découvrir la série « Retourner les pierres », réalisée par le collectif Forêt Noire. Forêt Noire fabrique de la radio et de la création sonore comme on écoute des histoires le soir au coin du feu. Ce nom abrite le trio Léa Anaïs Machado, Pierre-Antoine Naline et Marie Ponce. Forêt Noire réalise des créations originales mêlant écriture documentaire et composition musicale, où l'oralité, l'enquête et le récit ont une place fondamentale. C'est exactement ce que vous allez pouvoir découvrir avec Retourner les forêts. Une série en 7 épisodes sous forme d'enquête. Une enquête qui chemine dans le paysage entre les vivants, les vivantes et leurs fantômes. À la croisée de deux routes, dans le département du Lot, il existe ce toponyme mystérieux, la croix des femmes mortes. Elles vont sur place, poser des questions, interroger les habitantes, leurs souvenirs, tenter d'imaginer qui elles étaient et pourquoi n'ont-elles laissé derrière elles rien d'autre que ce nom, à la fois imposant et aussi diffus qu'un filet de brume. Il y a 2 semaines, nous vous avons diffusé les 3 premiers épisodes. Voici les 4 restants pour conclure. Est-ce que la rencontre avec Monique, un historien, une ancienne légende, et Simone vont-elles leur permettre de découvrir le secret de la croix des femmes mortes? Bonne écoute sur Jet.
Épisode 4, au creux des ventres.
Oh, il faut lui laisser
la vie.
Est-ce que les femmes mortes sont des veuves?
Vous croyez un peu à ça, au fantôme?
À la destinée.
Fu morto veut aussi dire... L'enfant mort. Lorsqu'un mot est prononcé, qu'il circule de bouche en bouche, il glisse, se transforme avec le temps, l'usage, les passages d'un parler à l'autre. La langue est vivante, elle nous demande un travail d'interprétation. Il faut regarder ce qu'il y a sous l'évidence des termes, vers les strates plus anciennes. La toponymie, le paysage, l'occitan, le français, l'eau, la pierre nous raconte quelque chose. Il faut les avoir ensemble dans notre champ de vision. On regarde la carte à nouveau. Autour de la croix des femmes mortes, les noms de pierres sont partout. Peyrebrune, Carayac, Roquedur. Les noms liés à l'eau aussi. Les Merlis, la source de Crosse-Basse, la fontaine de Saint-Pantaléon. On cherche ce que veut dire les clous, le nom du dolmen qui se trouve près de la croix des femmes mortes. Dans le texte de Pêche en Combe de Gaston Bazalgues, on lit qu'un clou ou un croc, c'est un creux dans le paysage.
Les femmes mortes font mortes. Le dolmen des clous, chacun de ces endroits sont à proximité les uns des autres. Sur la carte, une fois reliés ensemble, ils dessinent une ligne courbe. On le sent, quelque chose se joue dans ce chemin que l'on vient de tracer. Le paysage raconte une histoire que l'on commence à interpréter. Fon morto, l'enfant mort, la fontaine disparue. On cherche ce qui pourrait unir ces trois points. On lit que parmi les pratiques de guérison anciennes, les fontaines ont une place très importante. À la fontaine de Saint-Pantaléon, on conduit les enfants ayant mal aux jambes. À Catus, à la fontaine de Saint-Barnabé, aujourd'hui disparue, on emmène les enfants rachitiques, mettant les jambes en croix. Dans le Haut-Quercy, on raconte aussi cette histoire. Une enfant était atteinte de la fièvre des marais. Pour la guérir, sa mère tressa trois couronnes de chèvrefeuille. Puis, elle conduisit la fillette en un lieu où se trouvaient trois sources. Sur leurs os, elle déposa les couronnes et disposa sur le sol en triangle un peu de sel. À l'intérieur de ce cercle, l'enfant but à même les sources. Après cela, la mère et la fillette s'en allèrent sans regarder derrière elles, pour ne pas que la fièvre abandonnée là ne revienne.
Ces gestes de guérison nous font repenser à une histoire collectée quelques jours plus tôt à Castelfranc, celle de Monique, née au bord de la mort.
Et puis je vois ici, c'était le Lot, était quand même, c'était un terrain de résistants. Hein. Il y a eu le maquis ici, donc ça, c'était aussi quelque chose d'important. Hein. Mon père était dans le maquis quand ma mère s'est trouvée enceinte. Et c'était ma grand-mère et ma mère qui allaient ravitailler mon père au maquis avec. Quoi. Donc ils passaient par les champs et il y avait les Allemands dans le coin. Quoi, hein.
Elle était enceinte de vous ?
Oui. Et quand je suis née, j'avais une jumelle. Je suis jumelle. Et ma mère, elle a eu deux fécondations. C'est quelque chose qui arrive très très rarement, mais sur, je ne sais pas, un cas sur 10 000, quoi. Donc j'ai été fécondée, moi, un peu plus d'un mois après elle. Donc quand je suis née, je n'étais pas finie. J'avais pas d'ongles, je pesais 1,5 kg. Et si j'avais, je dis toujours, si j'avais pas été chez cette mémé-là, moi je vivrais pas à l'heure actuelle parce qu'ils ont chauffé la maison à 30 degrés, je sais pas si vous voyez, avec un poêle, quoi. Maman a pas pu nous allaiter, en plus, parce qu'elle avait des abcès au sein. Et on a été élevé au lait concentré, je ne sais pas si vous voyez. Donc il fallait avoir les moyens. Et je sais que ma grand-mère faisait des échanges de bons alimentaires par rapport à tout ça, quoi. Voilà. Et il a fallu le dire à mon père, parce que ma mère était trop faible pour lui annoncer que sur une des deux, il y en a une qui ne pourrait pas vivre. Et il a fallu que mémé aille voir papa au maquis. Et là, papa, il nous avait pas vus, mais il y en avait deux et il voulait pas en perdre une. Donc, voilà. C'est... Alors, mémé s'occupait de moi et puis maman s'occupait de Chantal, quoi, et ma sœur. Et un jour, je me suis étirée, et tout d'un coup, mémé a fait... Eh ben ça y est, elle est sortie d'affaires. Et maman a entendu, elle a dit, qu'est-ce qui se passe là ? Elle a dit, ben oui, on n'osait pas te le dire, mais là, je pense que je suis sortie d'affaires. Voilà. Il y avait pas... C'était la guerre, hein. On pouvait que être soigné chez nous, quoi. Hein. Oui, donc on vivait pas, hein. Les plus costauds vivaient, et puis les autres... Et c'est vrai qu'elle s'est bien occupée de moi, quoi. Ouais.
Quand j'entends Chantal, le nom de la sœur jumelle de Monique, j'entends Cantal. Cant, la pierre. Encore une histoire de pierre. Dans le dictionnaire, on cherche. Le prénom Monique vient de monos, c'est-à-dire seul, Pierre, seul, Chantal et Monique, un monolithe mal né, sauvé par leurs aïeuls. Presque une histoire de mal mort. Parce qu'on le sait aussi, certains fantômes sont des mal morts. Ce mot désigne celles et ceux qui ont péri d'une manière brutale et dont on craint le retour. Ce sont eux que l'on appelle en occitan les tornos, les revenants. Les tornes se glissent parfois dans les maisons. À la nuit tombée, ils frappent plusieurs coups à la cave ou au grenier. Ils reviennent tracasser les vivants, entrent dans les étables et affolent les bêtes. Loin des habitations, et surtout au carrefour, ils apparaissent, pendant les nuits obscures, à des personnes isolées, et cherchent parfois à leur nuire. Les récits sont multiples à travers les campagnes. Certains affirment avoir vu de leurs yeux, en une vision qui n'est ni tout à fait un rêve, ni un cauchemar, ni une hallucination, un mort avec qui ils furent familiers. La croix pourrait être un endroit où sont enterrées les malles mortes, un carrefour où errent les tornes.
Quelques jours plus tard, on reçoit des nouvelles du SEL, Société des études du Lot. L'historien Patrice Foissac a des choses à nous dire sur la croix des femmes mortes. C'est la première fois qu'un vivant nous dit qu'il reste quelque chose.
Bonjour, c'est M. Foissac de la Société des études du Lot à Cahors. Donc j'ai eu un relais par votre président, donc Marc Lécurie, de votre demande de recherche sur les toponymes donc, du côté de Soucirac. Voilà, donc j'avais quelques réponses à vous donner. Donc vous pouvez me rappeler dans la journée, dans le numéro qui a dû s'afficher. Voilà, à bientôt. Au revoir.
À suivre.
Épisode 5. L'eau monte.
Oui, Madame Ponce ?
Oui, c'est moi.
Oui, bonjour, c'est Monsieur Foissac de la Société d'études du Lot. J'ai vu le mail envoyé par Marc Lécurie, notre président, là. Donc vous cherchez des renseignements en fait sur deux lieux dits, hein. C'est bien ça ?
Oui, c'est ça. En fait, on est en train d'enquêter pour un projet radiophonique du côté du pêche des batailles et de la croix des femmes mortes, sur cet endroit alors, où il y a très peu de renseignements.
Alors, il y a un article qui est un article écrit par Jean Lartigot, notre ancien président, donc, qui était un médiéviste émérite. Et bon, il évoque Soucirac et Ginouillac à côté. Il n'évoque pas ni le pêche des batailles, ni la croix des femmes mortes, mais il évoque un endroit qui s'appelle les Vieilles Mortes. Et en fait, pour les spécialistes en toponymie, tout ce qui est relatif aux femmes mortes, ça désigne des sépultures, bon, évidemment.
Ouais.
Et souvent des mégalithes, en fait.
Ok.
Donc il se peut qu'il y ait eu, sur l'emplacement, le lieu dit, donc la croix des femmes mortes, qui est un carrefour, d'après ce que j'ai pu voir là tout à l'heure.
Oui.
Donc dans les carrefours, on a christianisé par des croix, souvent. Des lieux qui étaient autrefois des lieux où il y avait des dolmens. Bon. Et quant au pêche des batailles, en revanche, j'ai aucun renseignement là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, apparemment, il n'y a pas eu de bataille, on va dire, répertoriée. Alors après, c'est peu qu'il y a eu au cours de, notamment de la guerre de Cent Ans ou des guerres de religion, qu'il y a pu avoir une escarmouche, parce qu'on était sur la route royale, en fait, qui passait par Soucirac.
D'accord.
Mais il n'y a pas de bataille, enfin, à ma connaissance. Alors, ensuite, il faut se méfier parce qu'il y a des faux amis. C'est-à-dire, pêche des batailles, ça peut être très bien une famille qui habitait là et qui s'appelait Bataille, vous voyez ?
Ah oui, c'est vrai.
Ça arrive
vrai.
Quelquefois, on est sur des fausses pistes, en fait, et voilà. Mais je vous enverrai par mail, vous enverrai par mail la référence de l'article de Jean Lartigot, qui est la seule source, à ma connaissance, la seule source dont on dispose sur Soucirac. Alors, il cite un article de M. Soutou, dont j'ai oublié le prénom, qui évoque le toponyme des vieilles mortes, qui est aussi la même chose que les femmes mortes.
D'accord, ok.
Mais bon, je pense que ce sont des toponymes liés aux les femmes mortes, liées aux sépultures. Alors, il y a des mythologies, des folklores en Amérique latine, notamment chez les Aztèques. Il y a une espèce de culte des femmes mortes en couche, c'est un peu, si vous voulez, les femmes mortes, c'est un peu la personnification de tumulus ou de pierres importantes ou de dolmens ou de menhirs. Voilà à peu près ce qu'on peut dire. Voilà.
Oui, surtout que effectivement, ça nous a interpellé parce que sur la carte, il y a toujours un dolmen. Ah. Enfin, il y en a un en tout cas qui est indiqué tout près du croisement, là, juste avant Ginouillac.
D'accord. Du coup, ça correspondrait. Oui. Ouais. Ensuite, il y a beaucoup de dolmens qui ont disparu parce qu'ils ont été détruits, notamment sous l'épiscopat d'Alain de Solignac. Donc, il a fait détruire beaucoup de menhirs, des dolmens aussi, parce que les croyances populaires associaient ça à la fertilité. La fertilité féminine. Donc, il y avait des pratiques un peu olé-olé, disons, qui choquaient le clergé, notamment des femmes qui allaient s'allonger sur les dolmens. Vous voyez, bon, je ne vais pas pousser là, l'interprétation trop loin. Du coup, il y a eu beaucoup de destruction, en fait, par le clergé. Et ensuite, il y a eu des destructions aussi par l'agriculture. Donc, il y a des endroits qui s'appellent les femmes mortes ou les vieilles mortes, où il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de dolmens, mais ils ont été détruits. Voilà. Moi, honnêtement, je pense qu'il faut. La meilleure piste pour interpréter, c'est sûrement ces histoires de dolmens, de sépultures. Il se peut. C'est pas exclu qu'il y ait eu aussi un massacre au bord de la route ou des choses comme ça. Bon, c'est improbable parce que le toponyme femme morte et vieille morte, on le retrouve un peu partout. Quoi. Donc,
oui, à d'autres endroits en France, vous voulez dire. Il y a d'autres.
Oui, voilà. Exactement.
Ok.
Voilà. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire.
Ouais, ben merci beaucoup.
Ben, je vous en prie, je vous souhaite bon courage dans vos recherches.
Merci.
Et puis n'hésitez pas, si vous avez quelque chose à demander, vous avez mon numéro.
Oui.
Il n'y a pas de souci. Voilà.
Merci.
Avec plaisir. Au revoir.
Au revoir.
Oh, wow. Purée.
Génial.
Incroyable.
Les mots de Patrice Foissac font ruisseler vers nous un torrent d'informations. C'est encore une histoire de glissement dans la langue. Pour entendre l'histoire des femmes mortes, il faut parler des vieilles mortes. Il faut que l'on cherche ce qui apparaît sous ce nom-là. Les dolmens, autour desquels on tourne depuis un moment, sont des lieux de sépulture anciens, pour partie détruits ou déplacés. Alors qu'ils étaient autrefois considérés comme des endroits magiques, ils ont été désenchantés par l'interdiction de perpétuer les rites et les légendes qui les entouraient. Lorsqu'on empêche les gens de raconter leurs propres histoires dans leur propre langue, ça modifie le paysage. Ça efface des chemins. Ces figures de femmes-mères, l'existence de rites païens liés à l'enfantement et la fertilité, sont aussi une bonne voie. Ça résonne avec notre intuition de se dire que l'histoire se situe au creux des ventres. On avait raison de venir jusqu'ici. Il y avait quelque chose à trouver.
Le dolmen qui est actuellement près de la Croix des Femmes Mortes, peut-être que c'est un reste de... Parce qu'il est tout près du carrefour, là.
Le dolmen des clous.
Des clous. Ça pourrait être un de ceux qui restent, quoi, qui est pas loin.
Mais c'est marrant parce que les dolmens, c'est comme si on est appelé par les dolmens par tout le monde.
Ouais.
J'ai l'impression que tout nous ramène vachement à la terre, à la pierre, à ce qu'il y a en dessous.
Donc il faut aller voir les deux articles, là.
On peut
aller
regarder maintenant. Hein.
Bah ouais.
Dans le sel.
Ouais, je pense que... Oh, il y a une carte.
Trop bien.
Putain, c'est dingue, n'empêche. Ah, la vieille morte. La première mention, Viella Morta, est de 1342.
Viella Morta.
Ouais.
Ce toponyme ne laisse pas indifférents les linguistes, ni les archéologues, ni les ethnologues, car il permet parfois de localiser des mégalithes ou plus simplement des sépultures.
On télécharge les deux articles recommandés par Patrice Foissac. On cherche aussi des textes ou des cartes qui pourraient se rapporter à l'appellation « vieille morte ». On imprime le tout. On a un grand paquet de mots à éplucher, comprendre, interpréter. On lit, on souligne, alors qu'avant on n'avait rien, on se retrouve face à un flot d'informations à traiter. Des pages et des pages sur les églises disparues, les villages environnants, des textes d'archéologues et d'historiens. Dans ce magma, il faut trouver notre chemin. Et comme il y a des faux amis partout, ça rend la tâche encore plus ardue. On capture chaque information qui nous semble résonner. On écrit sur des morceaux de papier que l'on scotche au mur. On se retrouve face à une constellation de mots. Puits asséchés, sources taries, lieux de culte, mégalithes, anciennes voies de passage, gouffres, pierres de la vieille. Il y a aussi des figures, comme tout droit sorties d'un conte. La vieille morte, qui accompagne les vivants le jour et les hante la nuit. Cacciobiello, la fée du cauchemar. Ma la vieille, la maudite. Notre imaginaire s'ouvre. On sent que l'on se décolle des faits historiques et ça nous soulage de pouvoir rayer la piste du féminicide, des possibles interprétations. On va vers le conte populaire, une histoire de légende. Intimement, c'est peut-être là que l'on a envie d'être amené depuis le début. On avait envie de magie. Nous voilà servis. Il nous reste beaucoup à lire, mais on a prévu de passer voir si Solange est chez elle avant que l'orage éclate. Solange, c'est Simone et François qui nous ont recommandé d'aller frapper à sa porte.
Alors, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez comme histoire ?
Moi, je me demandais, parce que votre maison donne sur le cimetière de ce côté, qu'est-ce que ça fait de vivre face au cimetière ?
Très difficile. Quand j'étais jeune, il y avait des feux follets. Et j'ai vu énormément de feux follets, étant gamine, 8, 10 ans, 12 ans. Et je vous assure, ça fait une drôle d'impression. Vous voyez une flamme qui sort de la terre. Mais vous voyez ça la nuit, tout ça. Et j'avais une peur terrible des feux follets. Et puis alors, il y avait les jeunes du village, vous savez, dont mon frère à l'époque, il faisait les idiots. Ils se déguisaient, ils allaient faire les fantômes dans le cimetière. Et j'ai un souvenir là aussi, et je croyais, moi étant la mienne, enfin j'étais jeune, hein, je croyais que c'était des vrais fantômes, vous savez, avec des draps, voilà, c'est des trucs bêtes, mais bon. Et c'est vrai que de sur la terrasse, on donnait directement sur le cimetière. Et quand j'ai fait des travaux là sur la maison, vous voyez, j'ai fait monter le mur un peu plus haut pour plus voir ce cimetière. Au départ, on devait faire des ouvertures là derrière, mais je les ai mis hautes. Et en bas, j'ai mis un peu de papier collant, vous voyez, pour pas voir les tombes. Mais bon, je les vois quand même, hein. Quand je suis sur les fenêtres des chambres, je vois mon mari qui est au cimetière. Bon, mais...
Et vous croyez aux fantômes, vous, quand même ?
Non, je ne crois pas, mais j'ai quand même l'appréhension. J'ai été martée, alors je ne sais pas. Il y a une appréhension qui reste, hein, de la mine. Hein. Pourtant, c'est ridicule, parce que, bon, ils sont bien tranquilles, ils ne feront pas de mal, mais je garde une appréhension.
Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui restent ? Peut-être pas des fantômes, mais en tout cas quelque chose qui reste ?
Oui, oui. Quand je m'en vais, là, mon mari a été incinéré. Hein. Première chose que je fais, c'est j'ai besoin d'aller au cimetière. Je n'ai que les cendres, vous voyez, mais je ne sais pas. Il y a quand même quelque chose qui reste, malgré tout. Hein. C'est un besoin, quoi. On a besoin de se rattacher à quelque chose. Il y a aussi eu quelque chose qui a été terrible. Il y a eu les inondations en 62. Il y avait un mètre d'eau là partout, les vaches. Il a fallu sauter par la fenêtre de l'autre côté. Et donc, l'eau était dans le cimetière. Et une chose qui m'a marquée, on entendait les cercueils se cogner dans les caveaux, dans certains caveaux. Et ça, c'est quelque chose qui reste. Hein, ça fait une drôle d'impression. Hein, ça fait, mais bon, l'inondation était quand même énorme. Hein, c'est vrai qu'il y avait 1 mètre d'eau. Vous vous rendez compte, là, ça a duré toute la nuit, hein, l'inondation. Et ouais. Mes parents, on a tout perdu. On était une ferme. Donc, là-bas, il y avait les jambons à la cave, il y avait les carottes, il y avait les pommes de terre, il y avait les conserves, toute la réserve pour l'hiver. Et là, il y avait le bétail. Mais comme le bétail avait passé toute la nuit dans la cave, le lendemain matin, on a sorti tout, on a frotté à l'eau de vie, on les a fait courir et tout. Mais il a fallu vendre le bétail. Et mes parents étaient complètement ruinés. On s'est retrouvés, il n'y avait plus rien à manger à la maison. Quand je vous parle de l'inondation, bon, nous, on avait perdu le bétail, mais il y a eu quand même un décès dans la vallée. Il y a eu une maison qui s'est écroulée. Le gamin a survécu, mais la maman est morte dans l'inondation. La maison s'est écroulée. C'est le seul décès qu'il y a eu, mais enfin, ça a tout emporté sur son chemin, quoi, disons. Et il y a des faits comme ça, vous voyez. Quand je passe à Saint-Denis-Catus, je sais la maison. Voilà, quand vous êtes enfant, je crois que ça vous marque énormément et vous la redescend en mémoire, quoi. C'est vrai que...
On a besoin de respirer un peu. On part se baigner dans le Lot, chargé de l'histoire de la crue vécue par Solange. Il a beaucoup plu ces dernières nuits. Le niveau de l'eau est monté. L'herbe des berges est noyée. On entre dans la rivière. Le courant est fort, il ralentit nos mouvements. On nage, immergé dans le paysage. On se sent porté, soutenu, comme enveloppé par les flots. Au milieu de la rivière, on a l'impression d'inventer notre propre rituel, un peu sacré. Au-dessus de nos têtes, le ciel est lourd, ombragé. La pluie ne va pas tarder à tomber à nouveau. On se demande jusqu'où l'eau peut monter cette fois-ci.
L'orage est tout proche. On file à la maison. On débranche tous les appareils de peur que ça grille. Depuis qu'on est arrivé à Castelfranc, on a eu plusieurs fois des coupures soudaines dans nos conversations téléphoniques, nos ordinateurs et les enregistreurs qui s'éteignent d'un coup au moment où on prononce la croix des femmes mortes. Au début, on prenait ça un peu à la légère, en se disant que c'était presque un peu cliché. Maintenant, on sait que les fantômes peuvent avoir de l'humour. On est un peu plus prévoyante.
La nuit commence à tomber et depuis presque une heure, il pleut à torrents. Dans le canapé, Léa fait du crochet. J'attrape les dernières feuilles parmi les articles que l'on a imprimés. Il nous reste quelques pages à lire. Je feuillette. La pierre, l'eau, le paysage, tous les mots qui s'y rapportent sont affichés au mur devant nous, comme un puzzle géant. Ils débordent dans la maison, dans nos rêves, nos conversations. Cette enquête est devenue un environnement familier.
Depuis le canapé, je vois que de l'autre côté du salon, une petite flaque d'eau s'est formée au pied du mur. Je m'approche et d'entre deux pierres, je vois un tout petit trou par lequel coule un filet d'eau. L'eau a traversé la pierre.
Soudain, je me fige. Je n'en crois pas mes yeux. Je ne suis même pas sûre de ce que je viens de lire. Sur une feuille A4, la légende de la croix est là. À suivre. Épisode 6, La croix des femmes mortes. Venez, écoutez la légende de la vieille morte. Il y a bien longtemps de cela, à la croisée de deux chemins, vivait une vieille veuve. Alors qu'elle avait atteint l'âge où l'hiver a depuis longtemps déposé son gel en elle, dans son ventre, un enfant est arrivé, défiant le temps. Alors que de mari il n'y a plus, depuis bien des lunes, un enfant est là. Il naît. Sitôt son premier cri poussé, dans un fracas immense, la fée du cauchemar apparaît. Dans sa grande cruauté, elle frappe le sol et crache sa malédiction. Mala vieille, mauvaise vieille, trop vieille pour enfanter. Il te faudra porter à bout de bras une lourde pierre, toute ta vie durant, sans boire, sans manger, sans repos.
Le mauvais sort est jeté. Voilà la vieille condamnée à marcher, à errer, pour toujours. Du sol dur d'Écosse, elle arrache une pierre haute comme deux hommes. L'enfant porté d'un côté, la pierre de l'autre, avec son chien et son âne, elle part.
Le poids pèse à peine le chemin entamé. La vieille grimpe à travers le calcaire des pierres et le vert des chênes dressés. Elle marche, la nuit et le jour, traverse la lune et le soleil.
Et au moment où la pauvre atteint le sommet d'un pêche, son enfant, trop faible, meurt. Dévastée par la peine, elle dévale la pente et lui cherche un tombeau. La source entend ses pleurs et se tarit dans l'instant. La vieille creuse de ses mains et dans cette terre gorgée d'eau, elle dépose le petit corps. Fond morte. Désormais, c'est ainsi que l'endroit est appelé.
Le sort empêche la vieille de s'arrêter. Le cœur triste, elle doit continuer. Un pas après l'autre. Le chien ouvre la voie et alors que le ciel s'obscurcit, une sombre fosse l'avale. Dans le creux des loups, il disparaît.
L'orage éclate. La vieille et son âne trouvent abri sous un rocher. Elle écoute la pluie. Mais il n'est pas question de s'arrêter. Le mauvais sort est jeté. Il faut avancer. Le long de la vallée, là où grossissent les eaux du ruisseau, alors qu'il faut traverser, franchir le courant pour passer de l'autre côté, son âne est emporté par le tumulte des flots, noyé.
La vieille n'a plus la force d'avancer. Son corps s'effondre. Ses yeux se voilent. Le terrible sommeil est là. Mais ce n'est pas la mort qui est encore arrivée. Sans enfant, sans chien, sans âne, sans compagnon, sans compagne, elle demeure seule, avec la pierre rivée au corps.
Le chemin s'étend, noir au devant. La vieille ne voit qu'arbres et pierres, et l'eau monte en elle. Les larmes en torrent roulent sur ses joues. Chaque goutte entre sous terre et creuse le lit d'un ruisseau nouveau.
Ses pas longent le cours d'eau. Accablée de fatigue,
elle marche, marche, marche.
Mais la fée du cauchemar réapparaît. Elle l'a rattrapée. Et dans un grand éclat de rire, la foudroie sur le champ. La vieille s'effondre. La lourde pierre glisse de ses mains et vient se ficher en terre. Pour toujours, ainsi dressée, elle marquera sa peine et son chemin.
La vieille est celle qui a défié la mort en portant la vie. La femme maudite qui hante les creux du paysage. Certains disent qu'elle n'existe pas. C'est à toi de décider. Écoute. Observe. Emprunte d'autres chemins que ceux tracés sur tes cartes. Regarde les pierres qui poussent droit vers le toit du ciel. Remarque les creux, les trous. Tu verras que chacun de ces endroits raconte le passage de la vieille.
Les femmes mortes sont dans le paysage. Leurs histoires sont sous les pierres.
Épisode 7. Mauvais sort, mauvaise mort. Au départ de cette enquête, on se disait qu'il était possible que l'on ne trouve rien sur la croix des femmes mortes. À l'arrivée, on est stupéfaite d'avoir trouvé une légende qui donne une consistance, une voix aux femmes mortes de la croix. Les fantômes nous avaient joué des tours par des fausses pistes, des glissements de langue. Quand on parlait de la croix, il fallait entendre la croisée des chemins. Quand on lisait « Les femmes mortes », il fallait traduire par « La vieille morte ». Fond morte, la source disparue, était l'endroit où l'enfant de la vieille a été enterré.
le dolmen des clous, la pierre que la vieille aurait laissé glisser de ses mains au dernier instant.
Il ne s'agit pas ici d'histoire avec un grand H, mais d'une histoire, de mauvais sort, de mal morte. Il reste des questions, il y a des manques, mais on décide que c'est ce texte qui rapièce les trous de l'histoire de la croix des femmes mortes, dont si peu a survécu dans les mémoires.
Là, Simone Bory.
Et alors que c'est notre dernier jour à Castelfranc, on décide d'aller récolter une dernière histoire. Solange nous a conseillé d'aller voir Simone Bory. Sa maison est à quelques pas de la nôtre.
Bonjour.
Vous êtes Simone ?
Je suis Simone.
Bonjour, c'est Solange qui nous a dit de venir vous rencontrer.
Oui.
Si vous avez deux minutes, on peut peut-être...
Oui, rentrer. Si vous dites que le ruisseau était monté jusqu'ici, venez voir. En 27.
Ah oui.
Elle est montée là.
L'eau était montée juste
là. Oui, c'est pour ça qu'il y avait, dans toute cette rue, il n'y avait pas d'habitation en bas.
Ah oui.
C'était tout à l'étage. Ouais.
Et vous êtes de Castelfranc, vous ?
Moi, d'Anglard, à côté.
Ouais.
De l'autre côté du pont.
Oui.
Je traversais le Lot, c'est tout.
Asseyez-vous. Et vous faisiez quoi comme métier ?
Moi, je travaillais à la filature à Floras, c'est-à-dire le village à côté. Mais bon, après, j'ai eu des grands malades. Mon père a eu un accident, donc je me suis occupée de lui. Je faisais les piqûres, enfin bon.
Il avait eu quoi comme accident, votre père ?
C'est un pressoir qui lui est monté dessus. Un pressoir à vendage. C'était tiré par des bœufs, et il y a une cheville qui se trouvait entre les deux bœufs. Elle a sauté et le timon est allé dans son dos. Il a couché, et ça lui a coupé la colonne vertébrale. Il a fait 3 ans d'hôpital. Après, j'ai eu ma belle-mère qui a fait une hémiplégie, donc je l'ai gardée dans la salle à manger. Ah, mais je me suis occupée que de malades. Ah oui. Puis on n'a eu que des malheurs. Ma belle-sœur s'est tuée le jour de ses 20 ans. Le gendre s'est tué en voiture. Alors ça durcit peut-être.
Vous avez eu beaucoup de morts, alors
Ah oui, et des jeunes.
Et vous, vous croyez aux fantômes ou pas ?
Oh non, aux fantômes. Je crois pas à tout ça.
Et pourquoi vous y croyez pas ?
Et je sais pas. J'y crois pas, non ? Vous y croyez, vous ?
Bah, pas aux fantômes avec un drap blanc, mais je crois qu'il y a quand même des choses qui restent, des gens qui meurent.
C'est très bien que j'y crois. Mais bon...
Vous pensez qu'il ne reste plus rien ?
Non, il n'y a plus rien.
Et là, autour de vous, là, je vois qu'il y a des objets. Il y a une machine à écrire, je vois qu'il y a un briquet.
Ça, c'est ma belle-sœur qui travaillait à Gênes et qui s'est tuée dans un accident aussi.
Un accident de
voiture. On sortait du restaurant pour ses 20 ans.
Donc vous étiez ensemble avant.
Au repas, on était ensemble. On prend la voiture pour aller à la pergola à Fumel. Il y a un petit pont sur la route. Ils devaient se faire des bisous. C'était à l'île droite. Ils sont allés buter ce petit pont. Et c'est elle qui a pris. Le jour de ses 20 ans.
Elle s'appelait comment ?
Denise.
Denise.
Et puis ça, mais bon, j'avais un docteur, tous les deux... On l'a ramenée à la maison et c'est le docteur qui a annoncé aux beaux-parents que la fille... Et on l'a arrangé tous les deux, le docteur et moi.
C'est vous qui l'avez habillée ?
Oui, et arrangé la jambe parce que la jambe, il n'y en avait plus, quoi. C'était coupé là. Maintenant, ça ne se fait pas, ça. C'est les infirmiers ou je ne sais pas qui c'est qui vient, les pompiers même.
Mais c'est vous qui l'avez ramené le corps
Oui, avec le docteur. Mais on se connaissait très bien, puisqu'il m'avait appris pour mon père, à faire les piqûres, à tout faire.
Vous avez préparé beaucoup de personnes comme ça ?
Dans le temps, oui. Ah oui, maintenant, non. À part ma belle-mère et mon mari. Mais il faut être deux quand même, là. Hein.
Oui, parce que...
C'est pas évident, habiller un mort.
Non.
Je l'ai habillé avec son costume de pompier.
Ah, il
était pompier. Oui. D'ailleurs, il y a son casque là-bas au fond. Il y en a une fille, c'est celle qui a perdu son mari. Vous allez voir ce qu'elle marquait.
Ah, un album photo ?
Oui.
On peut regarder ?
Ah, mais bien sûr. Le voilà, toute sa vie, quoi.
Ah oui, de petit
ouais.
À plus âgé. Et donc, il s'appelait
André.
André.
Et elle s'est amusée. Elle m'a foutu mes albums en l'air. Elle a trié. Et celle qui est morte le jour de ses 20 ans, c'est elle.
Oh, d'accord. Donc là, c'était pas longtemps avant, non ?
Eh ben non, pas longtemps avant. Mais regardez comme il était maigre.
Et donc là, c'est vos filles ?
Oui. C'est Florence qui a perdu son mari, qu'on n'a pas pu voir d'ailleurs.
Et pourquoi ?
Parce qu'il n'y avait que des morceaux.
Il y a eu un accident aussi.
Oui, en plus.
Voilà.
C'est ce qui a détraqué mon mari.
Ça lui a fait.
C'est un camion, c'est passé à la télé. Ce camion, il a coupé l'autoroute, il est allé écraser 3 voitures. Et la première voiture, c'était le gendre qui est rentré du boulot.
Voilà.
Alors, ça fait beaucoup dans la famille.
Eh oui. Il y a beaucoup d'accidents.
D'accidents, oui. Et des jeunes.
Oui, des jeunes, oui. Ouais.
Eh bien, c'est celui-là qui est passé sur le camion. Presque la veille qui se tue.
C'est vrai, cette photo ?
Oui. Mais de ne pas l'avoir vu, je pense, même mort, c'est dur, ça.
Pourquoi c'est dur, selon
vous ? Je ne sais pas, moi, je préfère les voir. Leur dire au revoir.
Vous êtes croyante ?
Oui. Ah ouais.
Ça aide pour les morts, non ?
Je pense, oui. On ira les rejoindre.
Et donc, il est décédé en 2017, votre mari ?
Voilà. Et il n'y a pas longtemps que je m'assois sur la chaise où il s'asseyait pour manger. L'autre jour, l'infirmier me dit, assieds-vous là. Ah, j'ai dit, non, je ne m'assieds pas là. Et pourquoi ? J'ai dit, non, pas là, à côté, oui. C'est bizarre, ça. C'est comme, on a un petit calendrier, enfin, j'ai un petit calendrier, il le mettait tous les matins à jour. L'infirmier arrive, il me dit, il n'est pas à jour, votre calendrier. Il était prêt à le toucher. J'ai dit, non, ne touchez pas. C'est bien que... Pourquoi, je ne sais pas. Mais même au lit, j'ai essayé de me mettre à sa place, je n'y reste pas. Hein. Oui, oui.
Comme quelque chose de physique, enfin, comme
oui,
quelque chose
oui, oui, de... comme s'il y était. Mmh. Ouais.
C'est peut-être ça aussi, les fantômes, c'est la présence qui reste.
Peut-être, oui, ça. Mmh.
Mais vous trouvez que vous avez eu une vie heureuse quand même ou pas ?
Ah oui.
Oui.
Oui, oui. Malgré les malheurs, oui.
Et comment
mais il était super, mon mari.
C'est vrai ?
Ah oui.
Vous n'êtes jamais effondré ?
Non.
Ouais.
Ça ne sert à rien de pleurer là-dessus. Hein.
Mais pourquoi ça ne sert à rien ?
Mais qu'est-ce que ça fera si je pleure là et tout ? Ça ne fera rien. Mmh. Il vaut mieux avoir des bons souvenirs.
Bon, en tout cas, merci beaucoup aussi.
Bah ouais.
Ah non.
Merci.
Mais ça fait du bien.
C'est vrai ?
Ouais. Bah oui.
Bah nous aussi, ça nous fait du bien.
Ouais.
Oui. Mmh. C'est pas évident, hein, ce que vous faites là.
Je vais vous offrir quelque chose.
Ah, trèfle à quatre feuilles.
Ouais.
Waouh.
Un porte-bonheur.
Bah, merci. Magnifique. Ah, merci beaucoup, Simone. Merci beaucoup.
Notre mois à Castelfranc touche à sa fin. Il faut plier bagages, rentrer chez nous, et ce n'est pas évident de partir. Lorsque l'on a commencé par demander « Et vous ? Vous y croyez aux fantômes ?» Tout le monde a répondu non. Mais tout le monde a décrit des gestes et des rituels, des moyens de fabriquer dans l'intimité une relation à ces disparus. laisser la page du calendrier à la date d'un décès, porter un vêtement, aller prévenir au cimetière que l'on part en voyage, embrasser une photo, garder un objet. Y croire ou non, au fond, ce n'était pas la question la plus juste à poser. Ce que l'on nous a raconté, c'est les façons dont chacun et chacune se débrouille pour s'accommoder, inventer, échanger avec ses morts et ses mortes. Sans recette universelle, sans mode d'emploi, à partir de l'intuition, avec ce qui semble juste et ce qui fait du bien à ce moment-là.
Lorsqu'on commence à tendre l'oreille, que l'on ouvre la porte à la question, la présence des fantômes, tout en est marquée. C'est les murs de nos maisons qui ont vu naître et mourir. C'est une phrase dans un livre, un mot prononcé, un chant qui résonne au bon moment, un chat qui apparaît alors que l'orage s'apprête à tomber, une coupure d'électricité. Les fantômes parlent une langue mystérieuse. Pour mener l'enquête à leur côté, il nous a fallu s'armer de patience, accepter d'avancer lentement, accepter que l'on n'allait jamais vraiment tout comprendre. On a appris à lire des textes à trop et à en faire notre affaire, pour essayer d'en faire un récit à partager. La légende de la vieille morte, avec sa part de merveilleux, agit à sa façon comme un rituel magique. Une fois que l'histoire est tombée dans le creux de l'oreille, plus jamais on ne traversera le carrefour de ce hameau avec le même sentiment, le même regard porté sur le paysage vivant là.
Tout le temps que l'on a passé ici, Léa a fait du crochet. Dans ses mains, un premier fil crée une boucle. Le crochet passe à l'intérieur, attrape le fil suivant, passe à travers la boucle, ça crée un nœud. Et en regardant cette trame s'allonger au fil des jours, on se dit que c'est aussi ça qu'on a fait ici. On a pris dans nos mains ce nom. La croix des femmes mortes, comme un premier fil. On l'a croisée au récit des vivants que l'on a rencontrés. La trame que l'on a crochetée est faite de bifurcations, d'hésitations. Mais une étoffe est là.
Pour fermer un ouvrage, il faut couper le fil et faire un nœud dans la dernière maille. Ainsi, le crochet ne peut plus s'y glisser. Notre ouvrage à nous ne se termine pas par un bord net. On laisse la dernière maille ouverte pour que dans cet espace, si nous, peut-être, d'autres histoires.
Retourner les pierres. Enquête, écriture et montage, Léa Anaïs Machado et Marie Ponce. Composition musicale, prise de son et mixage, Pierre-Antoine Naline. Le thème de la légende de la vieille morte a été composé et interprété par Marthe Touré, Lisa Langlois-Garrigue, Elisa Trébouville et Noélie Niolou, du groupe Bosque, du collectif La Crue, avec Anaëlle Marsollier à la prise de son. Un grand merci à elle.
Un immense merci à Patrick et Marilyn pour leur générosité et leur accueil. Aux habitants et habitantes de Castelfranc pour leurs histoires et leur confiance. À Annie et Francis, Catherine et Jean-Pierre, Emmanuel et Armel d'avoir abrité nos temps de résidence.
À Alain Albareil, Frédéric Carré, Neil Bordure, Philippe Ménard, Magali Gauthier et Pierre Dangean pour le support technique. À Patrice Théry et Émilie Dallage pour l'accueil au studio de mixage, aux nombreux chats qui nous ont accompagnés durant cette aventure, à tous les fantômes et les vivants qui nous ont aidés à réaliser ce projet d'une manière ou d'une autre.
C'était Retourner les pierres, réalisé par le collectif Forêt Noire. Vous pouvez retrouver l'intégralité de la série sur l'audioblog d'Arte Radio. La semaine prochaine, on se retrouve avec une nouvelle émission des Détricoteuses et trois nouvelles contributrices autour du mot « bête ». Et on se quitte en musique avec le titre « Douce » de Clara Isée. Bon week-end sur Jet.
Toi qui crois que je suis douce, respecte quand je te repousse, car les jours où l'ennui me course, moi je sens la mort à mes trousses. Tu penses que je suis sage, je maîtrise les mirages, j'arrive à te cacher ma rage, je veux t'épargner mes naufrages. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. Tu parles de ma résilience, mais tu ignores combien je pense que la colère et l'arrogance nous soignent autant que le silence. Toi qui crois que je maîtrise ma vie, je la déréalise. Et quand la peur me paralyse, je chante et j'éloigne la crise. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. C'est mon guide, mais elle opère en terre aride. Ceux qui m'aiment ont le cœur solide et l'amour des choses candides. Si la mesure nous fatigue, à se sauver on est rapide. Nos chevaux ont les débris.